Je dis wow à la musique qu'on a eue ce matin. Merci beaucoup pour mes frères et sœurs qui utilisent leurs dons pour glorifier le Seigneur au travers de la musique. Amen.
Amen.
Message aujourd'hui, mettre sa confiance en Jésus-Christ. Mettre sa confiance en lui. Ça se peut que la dernière fois que je suis venu à l'avant, je vous ai dit que j'avais des petits problèmes de dos, fait que ça se peut qu'à un moment donné, je fasse ça. J'ai un petit banc, fait que soyez pas inquiète, ça va bien aller. Alors, tournez, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14. On va lire les versets 1 à 6. Tout le monde est là? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Un des textes probablement les plus connus de la Bible. Puis sans se tromper, je pense qu'on est tous d'accord que Jésus revient bientôt. Il peut revenir aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, mais dans sa parole, il nous dit qu'il revient bientôt. Puis il veut, en attendant son retour, que l'on soit réconforté. Il veut que l'on soit consolé. Vous savez, avec toutes les épreuves, toutes les difficultés qu'on peut avoir dans nos vies, dans nos propres vies, des fois, on peut être porté à être découragé. Fait que dans le contexte de notre texte, c'est le dernier repas avec les disciples et ils sont réunis autour de Jésus. Puis ça, c'est seulement quelques heures avant que lui-même soit à la croix, soit à Golgotha. Judas a déjà été démasqué, on va le voir tantôt. Puis là, Jésus commence à leur parler de son départ. C'est son discours d'adieu. Puis dans quelques heures, la vie de ses disciples va être complètement... Ils vont s'effondrer. Ils vont même l'abandonner. Et là, on arrive au chapitre 14. Ah, excusez, j'ai oublié de mettre ça... Les disciples sont à ce moment-là confus, désorientés, inquiets, et ils ont déjà mal. Mais Jésus anticipe leur inquiétude. Il veut et il va les rassurer. On peut appeler ce chapitre-là, le chapitre 14, le chapitre du réconfort. Martin Luther dit... Le meilleur et le plus réconfortant sermon que Christ a cité sur terre, un trésor et un bijou qui ne peut être acheté par les biens du monde. Toute autre personne qui aurait été à la place de Jésus à ce moment-là, sachant tout ce qui l'attendait, la croix, couronne d'épines, l'abandon du Père, La coupe de la colère qu'il était pour subir, le fait qu'il va porter les péchés de toute l'humanité. Mais une personne n'aurait jamais été capable, à ce moment-là, d'oublier ses problèmes à lui, puis de consoler les autres personnes. Ça n'aurait pas été possible. Il n'aurait pas été capable de faire ça. Mais Jésus, c'est complètement différent. Lui était indifférent à ce qui s'en venait. Il voulait vraiment consoler ses disciples. Il les aimait tellement, il voulait vraiment les rassurer. Tournez une page avant dans votre Bible, au chapitre 13. On va vous montrer comment Jésus les aimait, les disciples. Chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Mit le comble à son amour pour eux. Jésus savait que les disciples étaient pour être déchirés, puis il voulait absolument les réconforter. Puis vous savez, pour être consolé, pour être réconforté, c'est important que la personne qui nous console ou qui nous réconforte, qu'on ait confiance en lui. C'est un peu normal. C'est assez rare qu'on aime ça se faire consoler par un étranger qu'on ne connaît pas. Dernièrement, mon petit-fils Zacharie était malade. Il a fait une convulsion. Il a eu une bonne poussée de fièvre. Et puis, on est allé chez David et Karine. Puis, l'image est dans ma tête depuis cette journée-là. Le petit Zacharie était dans les bras de sa mère, dans les bras de Karine. Puis, il était bien. La consolation, le réconfort, le petit filapo, là, puis tout ce qu'il voulait, là, c'est sa maman. Puis, cette image-là, je l'ai, puis je le mets ici, à même chose que Jésus, me semble, c'est ça qu'il veut faire avec ses disciples. Les réconforter, les prendre dans ses bras, puis inquiétez-vous pas, je suis là. Alors, si on résume mon introduction, les disciples ont le cœur brisé, ils sont pleins de tristesse, et Jésus, dans son amour, veut les consoler au lieu de s'occuper de ses propres problèmes. Alors, Christ veut qu'on lui fasse confiance sur trois choses. La première chose qu'il veut qu'on lui fasse confiance, c'est en sa présence, en ses promesses et en sa personne. Alors, on va commencer avec « en sa présence ». Verset 1. « Que votre cœur ne se trouble point. » Que votre cœur ne se trouble point. Vous savez qu'une des raisons que les disciples étaient inquiets, qu'ils étaient troublés, c'est qu'ils focalisaient vraiment juste sur leur problème, au lieu de mettre leur confiance en Christ. Je dois vous confesser que je suis un peu comme ça. La semaine qui vient de passer a été difficile personnellement pour moi. J'ai dû mettre ça en pratique. J'ai dû mettre ça en pratique, de mettre ma confiance en lui. Vous savez, c'est facile de dire quand ça va bien. Mon frère, ma sœur, fais confiance à Jésus. Mais quand ça va moins bien, ce n'est pas tout à fait aussi facile. Je vous le confesse. Mais savez-vous quoi? Il faut le faire quand même. Il faut s'en remettre à lui. Regardons maintenant pourquoi que les disciples étaient si confus que ça. On en a parlé un petit peu tard, tantôt. On va regarder le fil des événements. Regardez dans le chapitre 13, au verset 21. Comment tout ça commence? Toujours dans Jean, chapitre 13, verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Verset 22, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Tout de suite, la confusion commence. Imaginez-vous la scène, là. Les 12 disciples sont là. Il y en a un de la gang là, qui va livrer Jésus. Ça ne commence pas bien, là. Ils sont confus, là. Verset 33. Regardez verset 33 du chapitre 13. Là, Jésus annonce qu'il va partir. « Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. » Oups, un autre tuile sur la tête. Il dit qu'il s'en va, il va s'en aller. Puis, savez-vous ce que j'aime beaucoup de... Du verset 33, les premiers mots, « mes petits-enfants ». Mes petits-enfants. Puis là, je reviens à Karine avec le petit dans ses bras. Voyez-vous la tendresse la tendresse de Jésus envers ses disciples, mes petits-enfants. Le troisième point, au verset 37, troisième raison pourquoi que les disciples sont confus. « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. » En plus, Christ va dire, « Ben là, Pierre, tu vas me renier. » Imaginez là, la confusion là, qu'il pouvait avoir à ce moment-là. Alors, trois raisons pourquoi ils sont troublés. La première, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un dans la gang qui va trahir Jésus. La deuxième, c'est que Jésus s'en va. Puis la troisième raison, c'est que Pierre va le renier. Fait que les disciples sont confus, sont inquiets, ils ne savent pas trop ce qui se passe, ils sont déconcertés. Mettez-en, ça va mal à la chope. Vous avez entendu cette expression-là? Ça allait avoir mal à la chope, là. Puis en plus, rappelez-vous au début du ministère de Jésus, quand que Jésus a choisi ses disciples, la parole nous dit que les disciples ont tout abandonné pour le suivre. Puis là, pour eux, c'est « Hey, Jésus nous abandonne, puis il s'en va. » Voyez-vous là? Puis les disciples tenaient tellement à lui. Tournez quelques pages avant au chapitre 11. Les disciples, là, ils tenaient tellement à Jésus. On va aller au chapitre 11, au verset 7 et 8. Ici, c'est la résurrection de Lazare. Verset 7. « Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui disent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? » Verset 16. « Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Wow! « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Retournez au chapitre 13, on l'a lu tantôt, verset 37. Qu'est-ce que Pierre a dit au milieu du verset vers la fin? « Je donnerai ma vie pour toi. » Les disciples tenaient tellement à Jésus qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour lui. Ils ont aimé celui, pendant 3 ans, les disciples ont aimé celui qui était parfait et dont son amour, lui, Jésus, était parfait envers ses disciples. Pensez-y deux minutes, là. Pendant 3 ans qu'il était avec Jésus, Jésus avait un parfait amour envers ses disciples. C'est pas beau, ça? Parfait amour envers ses disciples. Fait que le fait qu'il voyait que Jésus était pour partir, ça devenait complètement insoutenable. Il n'était pas capable de dealer avec ça. Excusez-moi l'anglicisme. Alors que votre cœur ne se trouble point. Maintenant, on arrive au moment où ce que Jésus commence à les rassurer. Regardez la deuxième partie du verset 1. « Croyez en Dieu et croyez en moi. » J'ai regardé dans le dictionnaire la définition du mot « croire ». Et puis, dans la définition, il disait « croire en quelqu'un » égale « accorder sa confiance ».« Accorder sa confiance ». Vous croyez, Jésus est en train de dire, vous croyez en Dieu le Père que vous ne voyez pas, mais croyez en moi aussi. Les disciples croyaient en Dieu le Père. On l'a vu ce matin avec Jonathan. Pas besoin de tourner, je vais le lire pour vous. Quand Jésus marche sur l'eau, à la fin, au verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Le fils de qui? De Dieu. Il croyait en Dieu. Puis, rappelez-vous aussi, quand que Pierre dit au verset 16 de Matthieu 16, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Fait que c'est c'est vraiment clair que les disciples croyaient en Dieu et croyaient au Fils de Dieu qui était Jésus. Fait que Jésus leur dit, « Ayez confiance en moi, je vais partir, mais je vais être encore là. » Puis pour appuyer cela, il dit, « Je vais vous envoyer quoi? Le Consolateur. » Le Consolateur, l'Esprit Saint. Dans Jean 14, on va lire, c'est un petit peu verset 25. Jean 14, 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pas beau ça comme nom, le Consolateur? Moi, ça me fait du bien d'entendre ça. C'est tellement merveilleux de savoir que la tâche du Saint-Esprit, c'est de nous montrer Jésus-Christ. Vous savez, je n'ai jamais vu Jésus. Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu ici? Je ne penserais pas. Je crois qu'il est vivant. Puis, je le connais personnellement. Je lui ai même parlé ce matin. Je lui ai parlé tantôt. Puis lui aussi m'a parlé. Le Saint-Esprit nous convainc continuellement que Christ est présent, que Christ est là. Même si je ne le vois pas, je lui fais confiance. C'est ce qu'on appelle avoir la foi. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Jean 20, 29, lorsque Jésus parle à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est nous autres, ça. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, le premier réconfort, c'est sa présence. Même si on ne le voit pas, nous savons qu'il est présent parce que le Consolateur, l'Esprit Saint, nous aide à le voir avec les yeux de la foi. Alors, le deuxième endroit où on doit lui faire confiance, c'est ses promesses. Versets 2 et 3. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de place au ciel? Le verset nous dit qu'il va y avoir plusieurs demeures, puis que je vais vous préparer une place. Vous savez, lorsqu'on va être au ciel, lorsque tous les élus vont être au ciel, vous n'aurez pas à vous inquiéter, il n'y aura pas une petite pancarte où il est marqué « No vacancy ». Ce ne sera pas le cas. Il va y avoir de la place pour tous les élus. Apocalypse nous donne un peu quelques informations. Dans 21, 15, 16. « Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. 12 000 stades. » OK, là je vais me lever, là, ça commence à être intéressant. 12 000 stades. On a fait, ma femme et moi, Janice, on a fait un petit peu de recherche, puis on a fait des petits calculs. 12 000 stades, ça donne 2 415 kilomètres dans toutes les directions. Okay? 2 415 de long, 2 415 de large, long, large et haut. Okay? La parole nous le dit, on l'a lu tantôt. C'est un cube, c'est un grand cube. Puis pour vous donner une idée, c'est combien long 2 415 kilomètres? Ça l'équivaut à la distance de Trois-Rivières en Floride à Orlando. Approximativement, là. Soyez indulgents, là, c'est peut-être pas au kilomètre près, là, mais je pourrais pas dire ce mot-là. À peu près, à peu près, à peu près. Merci, Will. Puis ça, là, pour savoir là, le kilomètre carré, vous savez, si vous avez un terrain de 100 par 100, pour savoir combien qui mesure en pieds carrés, vous dites 100 fois 100, c'est ça? Normalement? Bon, mais ici, là, si on prend 2415 kilomètres, on le multiplie par 2415 kilomètres, 5 832 000 kilomètres carrés. En passant, ceux qui ont la Bible, John MacArthur, dans les notes, il y a une erreur. Je peux vous le confirmer. Dans les notes de votre page, là, il y a une erreur. Forme de parenthèse, 5 832 000 carrés. Pour vous donner un autre exemple, moi je suis visuel, OK? L'île de Montréal. Savez-vous combien de fois l'île de Montréal, on pourrait le mettre là-dedans? Vous allez être surpris. 11 665 fois l'île de Montréal pourrait rentrer. C'est impressionnant. Êtes-vous impressionné? Puis encore, on n'a pas parlé de la hauteur. Mettons là qu'il y aurait un édifice qui mesurerait 2415 km. Savez-vous combien que ça pourrait faire d'étages, à peu près? 609 000 étages. Il va-tu avoir de la place? Il va avoir de la place, mes amis. Il va en avoir de la place. Il va avoir de la place pour tous les élus. No vacancy, il ne sera pas là. Il y a plusieurs demeures. À quelle place? Dans la maison de mon père. C'est tellement beau. Dans la maison de mon père. Au ciel, c'est un synonyme. Dans le royaume de Dieu. Cité céleste. Mais j'aime bien la maison de mon père. Home sweet home. Tandis qu'on est dans Apocalypse, là, on va continuer. Versets 1 et 4 du chapitre 21. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Verset 4, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. C'est là qu'on va être. C'est là qu'on va être, en présence de Dieu. On l'a chanté tantôt, en présence de Dieu. Puis en plus de ça, ça va être de toute beauté. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ça va être beau, pas à peu près. Puis, écoutez, on a vu toutes les pierres précieuses qui vont être là. Il y en a que je ne connais pas en toutes. Je n'ai pas vraiment recherché là-dessus, là. Mais il va y avoir plusieurs couleurs. Je suis daltonien. puis je ne peux même pas vous dire à quoi m'attendre par rapport aux couleurs, je ne sais pas. Mais imaginez, là, les pierres précieuses de toutes sortes de couleurs, la gloire de Dieu qui éclaire tout ça avec le reflet, ça va être quelque chose. Puis au ciel, je vais voir parfaitement les couleurs. Amen. Je vais juste vous préparer une place. C'est ce que Jésus dit. Je vais juste vous préparer une place, mais je vais revenir puis je vais vous prendre avec moi. Ça ne sera pas un messager qui va envoyer. C'est lui-même qui revient nous chercher. Et que j'aime ça. Il n'envoie pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui revient. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. C'est ce qu'il dit dans le verset 14, dans le chapitre 14. Mes amis, un jour je vais être là-haut. Mon Père Céleste est là. Mon Sauveur est là. Mon nom est là. Ma citoyenneté est là. Ma demeure est là. Et mon héritage est là. Quelle promesse, quelle espérance. Allez-vous être là? Troisième point, sa personne. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? C'est une bonne question parce que pensez-y, là. C'est comme si je vous dirais, bon, ben moi, je m'en vais. Quel chemin je vais prendre? Ben là, c'est où tu vas? Si tu veux savoir quelle route prendre, dis-moi où est-ce que tu vas. C'est ça ce que Thomas est en train de dire au Seigneur. C'est où tu vas, Seigneur? On ne sait pas. Comment on peut savoir quel chemin prendre? Puis regardez la réponse. Oh, quelle belle réponse. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ma mère avait une expression, elle, quand elle partait avec mon père, des fois, elle ne voulait pas tout le temps nous le dire, je pense, jusqu'à s'en aller. Elle disait, on s'en va à Big Win. Alors, vous avez déjà entendu ça? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu ça ou c'est juste ma fille, oui? Ah, mon gars aussi. Mais elle avait cette expression-là. Je ne sais pas d'où ça vient, mais quand, mettons, qu'il partait, soit qu'il ne voulait pas nous le dire, ou c'était une surprise, elle disait, on s'en va à Big Win. Mais Jésus, il ne dit pas, on s'en va à Big Win. Il dit, garde là, je suis le chemin. Vous savez, on n'a plus besoin. Le Seigneur dit qu'il va nous préparer une place. Puis, la seule façon de s'y rendre, c'est par Jésus, c'est par lui. Puis, on n'a même pas besoin de savoir. De quelle façon de se rendre là? Je veux dire, à quel endroit que c'est? Dans l'espace-temps, là, c'est où la maison du Père? Je n'ai pas besoin de le savoir parce que le Seigneur dit, je vais venir te rechercher, puis je vais venir te prendre. C'est pas merveilleux, ça? Moi, ça me rassure tellement, là. Puis vous savez, avant les GPS, là, les plus vieux, là, les jeunes, vous ne connaissez pas ça, vous connaissez juste des GPS, vous autres? Mais avant, là, quand on allait à une place, puis on était écarté un peu, là. On s'écartait des fois. Là. On demandait à un passant, bien là, monsieur, la telle rue, bien là, regarde, deuxième lumière à gauche, prends le troisième stop, puis, tu sais, des fois, il y avait de la confusion pas mal, là. Ou on arrêtait dans un garage ou d'un dépanneur, puis des fois, c'était pas évident. Mais quand il y a un monsieur ou une madame qui venait te voir, puis disait, garde, là, je vais prendre mon auto, suivez-moi, puis je vais vous amener à destination. Hey, wow! Ça, c'est à ça qu'elle baisse. Mais Jésus, là, il ne nous amène pas seulement à destination, il nous amène avec lui. On va être avec lui. Puis ça, je suis tout excité, moi, là, pour ça, merci, là. Il ne fera pas juste nous diriger, il va nous emmener avec lui. Dieu nous promet qu'il va revenir nous chercher et nous prendre avec lui. Je n'ai pas à m'inquiéter de savoir à quel endroit est la maison du Père. Jésus dit, fais-moi confiance, je suis le chemin, et quand viendra le moment, je viendrai te chercher pour t'amener à la maison du Père. Est-ce que ça vous console de savoir ça? Avez-vous l'assurance que si vous mourrez, vous allez être à la maison du Père? Avez-vous cette assurance-là? La deuxième partie dit, nul ne vient au Père que par Dieu. Nul. Personne. Nobody. Niet. Rien. Personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Êtes-vous certain de passer l'éternité auprès du Père? Si vous répondez non à ces questions, il est encore temps. Il n'est pas trop tard. Mais tardez pas, s'il vous plaît. Tardez pas, parce que Jésus dit qu'il revient bientôt. Ne sortez pas de ce local si vous n'avez pas invité Jésus à être le sauveur de votre, à être le sauveur et le Seigneur de votre vie. Puis si vous lui demandez pardon sincèrement, que vous vous convertissez, que vous changez votre vie, que vous acceptez qu'il est mort pour vous à la croix, le Seigneur, il dit, il y a plusieurs demeures au ciel, puis je vais te préparer une place. Puis je te le promets. Dieu nous le promet qu'il va le faire. Jésus est le chemin pour se rendre au Père. Jésus est la vérité. Et Jésus est la vie éternelle. En conclusion, ces versets-là, mon but, honnêtement, ce matin, c'est à vous réconforter. Comme ça m'a réconforté en le préparant. Comme ça m'a consolé. Ça leur a réconforté aussi les disciples, ça les a consolés. Puis je veux que ce soit la même chose pour vous, frères et sœurs. Rappelez-vous que vous pouvez mettre votre confiance en Jésus, en sa présence. Matthieu 28, 20 nous dit, « Et voici... je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous ne me voyez pas, mais je suis là. » Ayez confiance en ses promesses. Notre place est prête là-haut, puis il y a plusieurs demeures. Il revient bientôt nous chercher. Et ayez confiance en sa personne. Il est le seul chemin qui nous mène à Dieu. On va prier. Oh Seigneur, tu es un Dieu de consolation. Tu nous fais du bien, puis on te remercie, Seigneur. Merci d'être mort à la croix pour nous. Merci de nous avoir choisis pour faire partie de ton peuple. Nous sommes ton peuple, tes enfants, tes petits-enfants. Oh Seigneur, tu nous aimes tellement. Merci, Seigneur, qu'un jour, nous avons une belle espérance, qu'un jour, on va être avec toi pour l'éternité dans la maison du Père. Et Seigneur, en attendant, aide-nous à se consoler les uns les autres et aide-nous à nous encourager aussi du fait que l'avenir est proche et que nous allons pouvoir goûter vraiment la vie éternelle avec Dieu le Père et ainsi que l'agneau. Bénis-nous ensemble, fais-nous du bien, Seigneur, et sépare-nous par ta bénédiction. Au nom de Christ, Amen.